Docteur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Les 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali ont été jugés par une cour d'assises spéciale. Et le verdict est tombé, 20 ans de prison pour les 46 et pour les trois autres femmes. Il y a eu cette condamnation à mort par contumace. Quel commentaire cela vous inspire, cette peine infligée à ces 46 soldats, la peine de mort pour celles qui n'étaient pas là, les femmes soldats qui, bien sûr, pour des raisons humanitaires, comme cela avait été dit, étaient revenues dans leur pays?
Je trouve ça plutôt logique. Pas nécessairement juste, mais logique. En ce sens que si on veut garder la logique des choses, quelqu'un qui a accusé de déstabiliser un pays, c'est minimum 20 ans de prison. Donc même si le procès a été bâclé, n'a pas respecté les normes, le résultat est logique. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut situer ce procès dans un ensemble à la fois politique, juridique et diplomatique. Vous voyez, le procès a eu lieu quelques jours après la signature d'un mémorandum qui est intervenu quelques jours après les menaces de sanctions de la CEDEAO. Donc, il fallait que ce procès-là pour permettre justement au président malien de se remettre au centre du jeu politique et diplomatique.
Il y avait eu quand même un brin d'espoir avec cette délégation ivoirienne qui s'était rendue au Mali, la signature donc de ces mémorandums dont on ne connaît pas la teneur, mais on s'était dit justement que la voie diplomatique prenait donc le dessus. On s'est interrogé sur cette judiciarisation de l'affaire à nouveau.
Oui, la voie diplomatique n'exclut pas la voie juridique. Au contraire, il faut 700 ans juridiques pour que le politique et le diplomatique reprennent la main. À partir du moment où le pouvoir malien a placé cette affaire sur la question juridique, il ne peut pas s'en sortir sans cette étape-là. Donc, fallait juger pour permettre maintenant à la politique et aux diplomatiques de reprendre la main sur le dossier. Sinon, cela allait apparaître comme un désaveu pour la junte malienne.
Vous avez relevé justement cette menace de la CEDEAO et puis cet appel donc du secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que tout cela n'a pas poussé la junte malienne à réagir, à trouver une issue, même si cette issue est juridico-diplomatique?
Bien sûr, mais les sanctions, les menaces font partie aussi du jeu diplomatique. Faut pas entendre la diplomatie comme exclusivement des négociations. Ça s'appelle des négociations accompagnées de menaces, assorties de sanctions. D'ailleurs, les sanctions ou des menaces et sanctions qui évoluent selon les progrès diplomatiques. Donc, ça fait partie du jeu. C'est parce que l'ONU, la CEDEAO ont pris position de façon très ferme que le pouvoir malien aussi a compris qu'il est en train de s'isoler s'il continue dans cette voie. Et aujourd'hui, on recherche tous la voie de la sortie, mais je pense qu'il y a bon espoir que les choses seront réglées.
Parlant de diplomatie, beaucoup d'Ivoiriens avaient espéré qu'à l'occasion du discours à la nation du président de la transition malienne, une décision allait être prise dans ce sens. Cela n'a pas été fait. Quelle pourrait être la suite, selon vous?
La suite, je pense qu'elle est claire. Ça sera que le président malien va prononcer une grâce ou trouver le moyen politique ou diplomatique de le faire. Maintenant, le temps diplomatique, le temps politique peut paraître relativement long, mais je pense qu'il y a bon espoir. S'il le faisait juste à son discours du 31 décembre, vous voyez, il allait rentrer dans les délais fixés par la CEDEAO et ça pouvait être mal interprété par ses partisans. Donc, faut aussi les ménager. L'essentiel est temps que nos soldats reviennent très tôt.
Justement, parlant de la CEDEAO, qui décide de ne plus sanctionner, vous comprenez sa position actuelle?
Totalement. La sanction, c'est d'abord de la dissuasion. Et la dissuasion, c'est montrer sa force, on n'est pas l'employer. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de sanctionner. Mais l'idée, c'est de dire, allons-y, sinon, on vous sanctionnera. Maintenant, depuis le dernier sommet de la CEDEAO jusqu'à la date butoir du 31, il y a eu un mémorandum qui a été signé. Il y a les parties belligérantes elles-mêmes qui sont optimistes. La CEDEAO ne peut que s'inscrire dans cette ligne-là. S'il n'y avait rien eu entre ces deux dates, en ce moment, oui, elle allait activer les sanctions, mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait un mémorandum. On ne peut pas ignorer le fait que autorités ivoiriennes et maliennes sont conscientes, elles ont repris l'angle. Donc la CEDEAO va encadrer ça. C'est plus nécessaire de sanctionner puisque ce qu'on recherchait à travers les sanctions est en train de se produire. Donc on ne peut pas l'ignorer.
Certains observateurs estiment que, avec cette affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali, il pourrait avoir du vent dans les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Est-ce votre avis?
Je pense que si on a pris le temps de signer un mémorandum, c'est plus pour le futur. C'est parce qu'on est conscient que de tels incidents peuvent avoir des conséquences. Et ce mémorandum est là justement pour les relativiser. Voilà pourquoi en partie, même si ce n'est pas aujourd'hui officiel, On sait très bien que dans ce mémorandum, il y a une sorte d'engagement entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour poursuivre et renforcer leur coopération. Et n'oublions pas que c'est une coopération extrêmement nécessaire, indispensable pour tous les deux. Nous avons une frontière commune, nous avons une menace terroriste commune, nous sommes dans le même environnement, donc nous sommes deux pays amenés à collaborer.
Docteur Atubanga, je vous remercie.
C'est moi.